Bonsoir. Avant de laisser la parole au Père Piret, je voulais vous signaler deux choses. Vous savez que dans le cadre de la pédagogie de l'IET, chaque cours, chaque séminaire reçoit une évaluation de la part de ceux qui suivent ce cours à mi-chemin. Comme ce cours du soir est un cours public, il est un petit peu difficile de demander une évaluation à des personnes qui suivent une fois, deux fois. Et c'est donc les étudiants réguliers qui sont présents parmi vous, séminaristes, religieux, religieuses, laïques, ceux qui suivent, qui sont régulièrement inscrits, qui suivent l'ensemble du cursus à l'IET, qui font cette évaluation. Et je voulais juste dire en quelques mots, il y a à la fois, je crois, ce n'est pas un satisfait cheat pour les professeurs, mais je crois que ce cours répond à une demande de l'Église, et puis une demande de chacun, chacune d'entre nous, d'approfondir notre foi. Et dans le cadre de ce cours, 14 leçons, 14 semaines, des étudiants ont demandé, tiens, ce serait quand même bien qu'à chaque séance, on puisse faire le lien avec la séance précédente. Je dois simplement m'en expliquer que c'est un petit peu difficile pour deux raisons. D'abord parce que ce lien, il est déjà fait formellement dans la plaquette. On explique le mouvement même du cours qui a plusieurs étapes. À l'étape où nous sommes dans le contenu même du credo. Après avoir examiné dans une première partie du cours l'acte de foi, nous regardons le contenu de la foi et nous suivons grosso modo le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople. Après avoir étudié le Père Tout-Puissant, nous regardons aujourd'hui le Fils, le Christ, Dieu et homme. On a choisi une thématique qui correspond peut-être à l'actualité théologique. La question sur les natures du Christ sont des questions actuelles, je crois, pour beaucoup de nos contemporains. Comment est-ce que la tradition a perçu ces questions? Comment est-ce qu'elle y a répondu? Comment aujourd'hui on peut avoir un langage dans la foi pour répondre à ces questions? Donc voilà, la deuxième raison pour laquelle c'est difficile de faire le lien entre deux séances, c'est que je vais découvrir, comme vous, le contenu de la prestation de mon confrère. Et je ne pouvais pas exiger de la part de mes confrères un exposé déjà écrit une semaine à l'avance pour que je puisse le lire et ensuite faire la soudure. Non, je ne peux que me réjouir à l'avance, mais en étant dans l'attente. Donc voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle il n'y a pas forcément une petite séance introductive à chaque fois, un petit temps d'introduction à chaque fois. Le deuxième point par rapport à ces évaluations, c'était pouvoir relire les conférences. Alors c'est là aussi, je ne pouvais pas exiger de la part des conférenciers un texte écrit, mais la technique nous permet de réécouter ces conférences. Je crois que tout le monde ne le sait pas, mais si vous allez sur Internet, vous pouvez suivre l'ensemble des conférences. Il y a simplement un intervalle de temps entre son expression orale dans cet auditoire et le moment où cette conférence est accessible dans le monde entier. Dans le monde entier, oui, je sais qu'il y a des personnes qui, en Israël ou même en Amérique du Sud, eh bien, sont heureux de pouvoir entendre un petit cours de théologie en français. Et donc là, juste pour le moment, il y a 6 leçons qui sont accessibles sur Internet, sur le site de l'IET, www.iet.be, et c'est gratuit. Voilà, je laisse la parole au Père Pierre Piret pour cette leçon sur le Christ, homme et Dieu. Il est inutile de présenter le Père Piret, il a déjà très aimablement participer à ces cours à travers son intervention sur la foi et la raison. Il nous a montré comment on pouvait réfléchir sur leur relation réciproque, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, la réciprocité de la foi et de la... L'une appelle l'autre. Et alors, il retrouve un de ces vieux... Pas démons, hein, de ces vieux anges. C'est la christologie. Il avait fait sa thèse à Paris sur Maxime le Confesseur, sur la volonté du Christ, sur l'humanité du Christ, jusqu'où elle va. Peut-être qu'il va nous en parler ce soir. Hein, quand... Mais voilà, ce sera soit pendant l'heure, soit après, pendant la demi-heure de questions et réponses. Hein, quand le Christ est à l'agonie, est-ce qu'il est encore le Fils de Dieu ?
Merci Alban. Avant d'examiner la feuille de route que vous avez reçue et en écoutant ce qui est proposé dans les évaluations des étudiants, rappelons-nous le programme général, brièvement. Comment la leçon de ce soir est-elle inscrite dans l'ensemble du cours? Bien, nous nous trouvons au centre de la deuxième section, qui a pour titre « La foi professée, le credo ». Credo, verbe latin. Credo signifie « je crois ». Le verbe peut être aussi utilisé employé comme substantif et au pluriel. Et les credos sont des confessions de foi présentes dans l'Écriture sainte et dans les communautés chrétiennes. Nous avons entendu cela développé dans la leçon 6. Un de ces credos est privilégié. Nous l'appelons, je vais dire tout de suite pourquoi, rappeler tout de suite pourquoi, le symbole de Nicée-Constantinople. C'est le credo que nous disons à la messe. De quel document s'agit-il ? D'un document qui a été écrit en deux fois. Un document qui a été promulgué solennellement par les deux premiers conciles que l'on déclare aujourd'hui dans toutes les églises écuméniques. Le concile de Nicée en 325, puis développant le précédent au sujet de l'Esprit Saint, le concile de Constantinople en 381. Lorsque les pères conciliaires rédigent leurs documents, ils écrivent pour débuter « Nous croyons ». Lorsque nous prononçons ce même credo, nous disons « Je crois ». La foi, et nous aussi nous en avons parlé dans la leçon 6, la foi est professée à la première personne du singulier. Mais cette première personne du singulier, singulièrement dans la liturgie, c'est toute l'Église, c'est chaque croyant, c'est l'assemblée dominicale, et qui se rappelle chaque dimanche la vigile pascale et le baptême reçu. C'est le credo professé au baptême. Et je rappelle le premier article en le citant dans la traduction liturgique. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ce fut le sujet de la leçon 7, la leçon précédente. Notre leçon 8, notre leçon d'aujourd'hui, elle, concerne le deuxième article du credo. Cette leçon a pour sujet, et ici je reprends l'intitulé de la leçon, cette leçon a pour sujet notre foi en Jésus-Christ, homme et Dieu. Et elle se laissera guider, cette leçon, par les énoncés de quatre conciles, des 4e et 5e siècles. Celui de Nicée et de Constantinople, celui d'Éphèse, celui de Chalcédoine. elle se laissera guider aussi par quelques passages de l'Évangile selon saint Jean. Et c'est ici que je vous invite à découvrir la feuille de route à laquelle nous recourrons tout au long de la leçon. La colonne de droite aligne tout d'abord le plan de l'exposé, et nous le trouvons dans l'introduction. Puis, les textes conciliaires, avec les noms de leurs principaux protagonistes, ceux qui sont indiqués entre crochets étant plutôt ceux que l'Église devait remettre dans une confession droite. Donc, colonne de droite, le plan d'exposé, les textes conciliaires, colonne de gauche, les péricopes évangéliques, avec indiqué à chaque fois les chapitres, chapitre 1, 5, 14 et 20 de l'Évangile selon saint Jean. Et commençons par un verset de saint Jean, le verset 1 du chapitre 14. Jésus s'adresse aux siens, à ses disciples. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La confession de foi de l'Église, et en particulier le symbole Nicée-Constantinople, suit en effet cette ordonnance, suit l'ordonnance de cette invitation de Jésus à ses disciples. Nous disons en premier lieu, je crois en Dieu. Et ensuite, je crois en Jésus-Christ. Qui est-il? Que croyons-nous de lui? Tâchons de découvrir progressivement l'identité filiale du Christ Jésus. Et nous commençons par l'écoute de saint Jean. Le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean initiera notre recherche. Jésus, à Jérusalem, vient de guérir un infirme lors du sabbat. Verset 1, 14. Je lis à présent les versets 15 à 18. L'homme alla raconter aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Dès lors, les Juifs s'en prirent à Jésus, qui avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Dès lors, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore, il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. C'est le chapitre 5. Et ce récit nous permet de saisir, par la place que ce chapitre occupe dans l'Évangile, l'ensemble de celui-ci. Rappelons-nous en effet les quatre premiers chapitres. Dès la fin du chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus semble avoir déjà parcouru tous les espaces et rencontré tous les destinataires ou les représentants des destinataires de son ministère. Il est passé du Jourdain, Jean-Baptiste, à Cana, en Galilée, sa mère y était et ses disciples. De là, il s'est rendu à Jérusalem, dans le temple. Il a rencontré les grands prêtres du temple. Puis le soir, il reçut la visite de Nicodème, un maître en écriture juive. De là, il a traversé la Samarie. Il rencontre la Samaritaine, qui fait venir à lui tous les Samaritains, les hérétiques aux yeux des Juifs. Il regagne Cana. Le cercle est fait. Il regagne Cana et de là, il guérit le fils d'un officier établi à Capharnaüm, terre païenne, officie probablement païenne. À partir du chapitre 5, alors, et jusqu'au chapitre 11 et 12, l'évangile se déroule comme un procès qui lui est intenté. Et l'acte d'accusation est exactement formulé par les Juifs. Par les Juifs garants, sans doute, aux yeux de l'évangéliste Saint Jean, garants de la foi en Dieu, capables de poser à Jésus les questions fondamentales sur Dieu et sur lui. Et c'est ainsi que nous les entendons dans l'évangile. Et l'acte d'accusation, en effet, est exactement formulé. Nous venons de l'entendre. En appelant Dieu son propre Père, cet homme se fait l'égal de Dieu. Comme dans tout procès, on convoque des témoins. Et le Christ Jésus cite alors les témoins capables de témoigner en sa faveur. Les Écritures. Avec Abraham. Abraham s'est réjoui de mon jour, dit-il. Avec Moïse. C'est de moi que Moïse a parlé, dit-il. Et puis Jean-Baptiste. Son œuvre, qui est celle du Père. C'est ce que nous venons d'entendre dire. Et finalement, le Père lui-même. Et c'est en cela que le procès surprend. Il nous frappe aussi par son drame, puisque en recourant à son Père, Jésus l'accusé se défend exactement par ce qui lui est reproché. Et de surcroît, continuons ce procès, de surcroît, celui qu'on appelle l'avocat de la défense, en grec parakletos, le paraclet, eh bien ce paraclet n'interviendra qu'après la condamnation et la mise à mort de l'accusé. De surcroît, c'est à ses disciples, au soir du dernier repas avec eux, que le Christ Jésus destine ce paraclet. Eux, ils vont le recevoir. C'est l'Esprit, dit-il. L'Esprit qui, renversant absolument le jugement à la face du monde, les fera, je cite, les fera accéder à la vérité tout entière. Ce repas, cette longue conversation de Jésus avec les siens le soir de sa passion est relatée par l'évangéliste Jean des chapitres 14, 13 déjà, 14 à 16. Et cette rencontre, cette réunion se termine par une prière de Jésus à son Père. Au long du repas, donc, conversant avec eux, Jésus enseigne les disciples sur sa passion, sur sa glorification. Il leur dit qu'il s'en va auprès du Père de qui il est venu. Et il achève donc cette réunion par une prière au Père, prière pour lui-même, pour ses disciples et pour les croyants de toujours. Je cite, Jésus parle à son Père. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi. » Et je lis les débuts de ce grand passage des chapitres 14 à 17. Chapitre 14 donc, et je le reprends au verset 1, déjà entendu. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez, vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ? Jésus lui dit, « Je suis le chemin, et la vérité, et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» J'ai évoqué les chapitres 1 à 4, les chapitres 14 et 17. Revenons au tout début de l'évangile joannique. Saint Jean commence son écrit par ce qu'on appelle un prologue, qui tout de même est un texte qui, pour ainsi dire, peut se faire entendre de chapitre en chapitre. Ce prologue, peut-on dire, est la confession de foi. C'est une confession de foi de celui, le même Jean, qui se dénomme comme témoin. Et qu'est-il dit dans les premiers versets de ce prologue ? Comment le Christ est-il reconnu ? Au commencement, Verbe de Dieu, Verbe qui s'est fait chair, le Fils unique. En grec, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur le mot en grec tout à l'heure, monogenèse. L'unique originé du Père, le Fils unique, le monogène du Père. Et de ce prologue, je lis avec vous les versets 9 à 14. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que Fils unique, monogenèse, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Et cette dénomination nous fait passer aux interventions des conciles, hein, Fils unique, nous fait passer aux interventions des conciles et aux questionnements qui ont provoqué ces interventions. Deuxième section, donc, de notre reconnaissance de l'identité filiale de Jésus, les conciles des 4e et 5e siècles. Nous sommes au 4e siècle, à Alexandrie, un haut lieu de recherche intellectuelle et d'expérience chrétienne. Et un prêtre de la région, appelé Arius, prône l'infériorité du Christ par rapport à Dieu. L'évêque Alexandre et son futur successeur, le diacre Athanase, réagissent. Mais l'hérésie arienne se répand dans toute la chrétienté. Basile de Césarée dira par exemple, l'Église s'est réveillée arienne. Hilaire de Poitiers devra combattre l'hérésie. Et celle-ci suscite la convocation par l'empereur Constantin du premier concile œcuménique à Nicée, en Asie mineure, donc, en 325. Il me semble qu'on peut résumer ou, disons, paraphraser l'hérésie d'Arius de la façon suivante. par sa compréhension, justement, du prologue de l'évangile selon saint Jean, qu'il confond, qu'il compare, en l'y comparant, avec les premiers versets du livre de la Genèse, Genesis, monogenèse, voyez. Reprenons le début du prologue johannique. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Jean 1:1-3. Prenons le début du livre de la Genèse, les premiers versets du récit donc de la création. La création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comment crée-t-il ? Dieu dit par le Verbe. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1:1. Les deux textes d'Explicarius se rejoignent. Dieu crée par son dire, par son Verbe. Au commencement, c'est bien ce que saint Jean nous relate. Donc, le Verbe est inférieur à Dieu. Le Verbe, d'une certaine façon, est la première créature de Dieu, par qui toutes les autres sont créées. Saint Jean dit par son Verbe, par sa parole. Avant de créer, Dieu n'a pas de Verbe. Il est Dieu, l'unique. Il devient créateur par son Verbe, et on peut même dire qu'il devient Père par son Fils, puisque le Fils est Verbe. La dénomination du Fils unique, d'ailleurs, souligne, d'après Arius, la même infériorité, le même écart par rapport à celui que nous confessons en toute vérité, l'unique Dieu. Le Fils provient du Père, mais le nom de Père lui-même désigne Dieu en tant que créateur. Le nom de Père ne désigne pas Dieu, c'est toujours Arius hein, que je paraphrase. Le nom de Père ne désigne pas Dieu en tant que Dieu, absolument. Ne désigne pas l'être absolu de Dieu. Autrement dit, nous appelons Dieu Père parce qu'il est notre Créateur. Et nous parlons d'un Fils créé par le Créateur que nous appelons Père. Tout cela est évidemment à l'écart de Dieu, auquel bien sûr Arius croit et veut justement défendre l'unicité, la réalité, la vigueur de la foi en Dieu. Comme l'évangéliste saint Jean identifie le Christ Jésus au Verbe de Dieu, au Fils du Père, il est évident que le Christ, certes plein de grâce et de vérité, oui, n'est pas Dieu. Étant comme averti de cette position d'Arius, donc de l'hérésie arienne, écoutons à présent la confession de foi proclamée au nom de l'Église par les pères du Concile de Nicée. Et je lis le texte d'abord une première fois, et puis je mettrai en relief quelques mots utilisés, et l'ordonnance des mots aussi, dès le premier article. Nous croyons en un Dieu, donc c'est le premier texte de la colonne de droite, Nicée 325. Nous croyons en un Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique engendré du Père, c'est-à-dire de la substance, et on met le mot en grec, on y reviendra, ousia du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel, c'est encore le mot grec, homoousios, dérivé de ousia, nous en parlerons, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, qui, pour nous, les hommes, et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts. Et en l'Esprit Saint. Mais à propos de l'Esprit Saint, point. Reprenons le texte. Nous croyons en un Dieu. Un, c'est le chiffre. C'est un et pas deux. Ce n'est pas un article indéfini, c'est vraiment le chiffre un. Alors, Dieu et puis Père. Le mot du Père vient immédiatement après celui de Dieu. Qu'il soit créateur de toutes les choses visibles et invisibles est dit à la fin, après avoir affirmé la toute-puissance du Père qui est Dieu, de Dieu qui est Père. Donc on confesse véritablement l'identité stricte, concrète de Dieu Père. Dieu est Père. Le Père est Dieu. Et c'est de sa toute-puissance de Père qu'il peut être le créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et si vous voulez, pour marquer bel et bien ce que j'appellerais l'identité concrète, l'être absolu de Dieu comme Père, du Père comme Dieu, ben le Concile utilise, et c'est pour cela qu'il est souligné, je crois, dans la traduction, le terme de, en grec, ousia. Ousia, qu'on traduit en latin substantia, d'où le français substance. L'ousia, c'est un dérivé de l'être. Mais l'ousie, excusez-moi si de temps en temps j'emploie le terme, mais ça veut véritablement signifier l'être concret, ce qui est en vérité et tout ce que c'est aussi. La substance. On pourrait dire peut-être la réalité concrète. Eh bien, lorsqu'on dit Père, on dit cette identité concrète de Dieu, absolument. Et lorsqu'on dit Dieu, on dit identiquement l'identité concrète absolue Père. Autrement dit, je crois en Dieu, c'est dire je crois en Dieu le Père. Puis le texte doit poursuivre. Et en un Seigneur Jésus-Christ. Les trois termes, même s'ils évoquent Dieu, sont des termes, pour ainsi dire, humains. Ainsi désignés. Le Seigneur, il est notre Seigneur. Il n'est pas Seigneur de Dieu. Jésus, c'est son nom d'homme. Ça veut dire Jésus sauve, mais c'est son nom d'homme. Christ, Messie, le consacré par Dieu, c'est le guide que Dieu promet définitivement à son peuple, roi ou prêtre. Le Fils de Dieu, c'est le nom divin du Christ. Le Fils monogenèse. On reprend le terme de Saint Jean. Et voici qu'on rajoute, qu'on redouble ce terme par un autre terme, unique engendré du Père. Et en grec, il y a presque une ressemblance, parce que engendré ou l'engendrement, c'est genesis, il y a deux N. Et genesis, un N, c'est ce qui était dit par la filiation. Il y a une insistance. Mais l'insistance, on la découvrira un peu plus loin. Réponse à Arius. Quand nous disons engendrer, on veut justement dire pas créer. Vous voyez plus loin. Engendrer, non créer. C'est là l'intention de ce terme. Et entre l'affirmation, l'unique engendré du Père, et le fait qu'il soit engendré, non créé, il y a cette triplicité de... ce refrain répété, il est Dieu de Dieu. lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Et le deux ici évoque non pas seulement l'appartenance, mais l'origine. Par exemple, le livre de Pierre, c'est le livre qui appartient à Pierre, ou c'est le livre que Pierre a écrit. Non, juste ça, c'est l'origine. C'est l'origine ici. C'est le Dieu qui vient de Dieu, engendré et non créé. Ah. Voici que le Concile vient de nous affirmer que le Père est Dieu, et que Dieu est Père, que le Fils est Dieu, que Dieu est Fils. Serait-ce à dire que nous croyons non pas en l'unique Dieu, mais en deux? Et c'est alors que le Concile invente, un mot capital qui devra servir de norme dans la confession d'identité divine du Christ, d'âge en âge, et qui est véritablement la réfutation de l'arianisme. C'est le fameux mot homoousios, au Père. Homos, de même. Ousios, ousia, l'ousie, hein, la réalité concrète. Homoousios au Père veut donc dire le Christ, le Verbe de Dieu, le Fils du Père, est Dieu, comme le Père est Dieu, c'est un Dieu unique. Il n'y a pas deux dieux. L'ousia est homoousia. Le Fils et le Père, quant à la divinité, c'est tout un. Dieu, c'est tout un, Père et Fils. Difficulté de traduire le mot homoousios. Consubstantielle, attention de ne pas imaginer, de ne pas se représenter une sorte de répartition de la substance. La substance, là, en partage. De même nature que le Père, attention aussi, parce que, évidemment, il y a l'analogie humaine. Un Père et un Fils partagent la même nature humaine. Homo, ousios. Mais le Père est un homme, et le Fils est un homme. C'est justement ce que l'homoousios ici, à propos du Christ de Dieu, veut exclure. Le Père est un Dieu, le Fils est le seul et même Dieu. Homoousios. Deuxièmement, après Nicée, cette profession de Nicée conduisit les théologiens du IVe siècle à d'autres développements. Parce que, nous venons de le dire, le Père est. Le Fils est le seul et même Dieu. Donc, il n'y a pas de distinction réelle entre le Père et Dieu, ni entre le Fils et Dieu. Il doit y en avoir une, tout de même, au sein de cette identité divine, entre le Père et le Fils. Comment en rendre compte ? Sans revenir en arrière de l'homoousios. Alors, parmi les pères de l'Église, j'ai cité Athanase, évêque d'Alexandrie. Je cite maintenant ceux qu'on nomme les trois pères cappadociens. La Turquie. Alexandrie, c'est l'Égypte. Mais en Turquie. Les trois pères cappadociens. Grégoire de Nazianze, surnommé le théologien. Basile de Césarée. Grégoire de Nice. Et nous leur devons bien des éléments de notre méditation spécifiquement chrétienne de Dieu et de son Christ. Reprenons le mot ousie, substance ou nature aussi. Eh bien, précisent les Cappadociens, cela désigne en Dieu ce qui est commun. La nature, c'est ce qui est commun. On parle de nom commun et de nom propre. Dieu est l'ousia, en Dieu, c'est ce qui est commun. Et intervient alors un autre terme, un nouveau terme, qui sera repris dans la tradition au sujet de la Sainte Trinité et au sujet du Christ, le terme en grec hypostasis, hypostase, qui peut être dit aussi prosopon, qui en latin devient persona et qui en français devient personne. Nous parlons en effet, depuis les Cappadociens, d'une nature en Dieu et de trois personnes, d'une nature divine de trois personnes. Eh bien, distinguons donc ce qui est commun, la nature, ce qui est propre, l'hypostase. Ainsi, d'être Dieu, c'est commun au Père et au Fils, c'est l'être, l'usie. Le propre du Père, la propriété qu'au sein de cette communion divine, le propre du Père, lui-même inengendré, c'est d'engendrer. Et le Fils d'être engendré. Attention tout de même, on parle de la nature, du Père, du Fils, et pas encore de l'Esprit. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'énumérer successivement la nature et puis la personne. Nous ne dirons pas « je crois en Dieu, virgule, je crois en le Père, virgule, je crois en le Fils ». Il faut pouvoir saisir, pour ainsi dire, immédiatement, en un seul, Dieu, Père, Fils, Esprit. Laissons l'esprit pour moi. Comment sauvegarder l'identité simple, donc, du commun et du propre? Et alors, encore un terme, qui sera repris alors dans toute la tradition théologique, un terme inventé par Grégoire de Nyssa, à savoir la relation. La relation. Et on retrouvera Saint Jean, la relation. Le propre du Fils est d'être engendré au Père, d'être engendré du Père. Parlons de relation. D'être engendré du Père, c'est la relation que le Fils a vis-à-vis du Père. C'est la relation que le Père a vis-à-vis du Fils. Mais cela veut dire, quant à nous, qui tâchons d'accéder à la contemplation de Dieu et de son Christ, ça veut dire, en ce qui nous concerne, que lorsque nous considérons directement le Fils, cette considération directe du Fils s'identifie à celle du Père. Je considère celui qui est Fils relatif au Père. Père relatif au Fils. Donc la relation, pour ainsi dire, est aussi comme une dynamique qui fait que les personnes sont véritablement en communion intime les unes avec les autres. Et plutôt que de parler de la nature divine, ce qu'il y a de commun, non assez commun, nous découvrons, grâce à cette introduction, pour ainsi dire, de la relation, véritablement, la communion intime des personnes relatives entre elles, c'est cela véritablement la nature divine. C'est la communion des personnes. Et justement, dans ma façon de signifier la relation, en disant mais considérer directement une personne, c'est considérer l'autre, puis étant donné que cette là, ce qu'il y a de propre à la personne, c'est d'être relative à l'autre. Et on réécoute dans toute sa simplicité, mais aussi dans toute sa profondeur extraordinaire, cette phrase de Jésus à Philippe. C'est vraiment la relation. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? L'amplification de la réflexion théologique et de sa terminologie au sujet du Père et du Fils permet aux Cappadociens, en particulier Basile, un enseignement similaire sur l'Esprit Saint. Car tous ces développements sur le Père et le Fils et le Père, semblaient de plus en plus rendre difficile la considération de l'Esprit Saint. Car si le Fils est l'unique engendré, si Dieu est Père, et que le Fils est l'unique engendré, et que le Père, comme le Fils, est l'unique Dieu, comment tâcher un peu de découvrir l'Esprit Saint? dans cette unicité. Or, les pères le savent bien. C'est surtout avec saint Jean, j'ai évoqué le Père, le Fils et le Fils et le Père, mais à propos de l'Esprit Saint, que des choses, un saint Paul dans ses lettres, un saint Luc dans son évangile et dans les actes, ne disent-ils pas au sujet de l'Esprit, si intime au Père et au Fils? Mais précisément, l'amplification de la réflexion théologique et de sa terminologie au sujet du Père et du Fils permet aux Cappadociens, en particulier Basile, un enseignement similaire sur l'Esprit Saint. La communion du Père, soit dit en passant, ce que je disais à propos de l'unicité, un certain Macédonius avait, en reprenant Arius, il avait repris Arius au sujet de l'Esprit. Hein? Le Verbe est Dieu, le Père créé par son Verbe, c'est l'unique Dieu, et rebelote, l'Esprit Saint est la première des créatures. Non. La communion du Père et du Fils en Dieu est si personnelle qu'elle-même en Dieu est personne de communion, est la personne de communion, le Saint-Esprit qui procède du Père. Et le Concile de Constantinople en 381 ajoute à celui de Nicée la confession expresse de l'Esprit, conjointement adoré, dit-il, et glorifié avec le Père et le Fils. Et un an après, du côté latin, en 382, une lettre du pape Damase introduit également à propos de l'Esprit Saint le terme homoousios, que nous ne trouvons pas dans l'original grec. Je ne relis pas la totalité de ce texte, quoiqu'il y aurait moyen mot à mot de le comparer à celui de Nicée, mais la comparaison la plus grande saute aux yeux, c'est le dernier article à propos de l'Esprit Saint. Nous croyons en Dieu, le Père, en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et en l'Esprit Saint, le Seigneur qui vivifie, qui procède du Père, qui, avec le Père et le Fils, est conjointement adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. Et aussi, remarquez, à propos de l'incarnation du Fils de Dieu, à propos de l'incarnation du Verbe, Nicée disait tout simplement, si on peut dire, il s'est incarné, s'est fait homme, etc. Constantinople, avec ce que les pères peuvent à présent dire au sujet de l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, s'est incarné de la Vierge Marie et s'est fait homme, etc. L'Esprit, personne de communion en Dieu lui-même, est le principe de notre communion à nous, créatures humaines avec Dieu, et à commencer par le Fils de Dieu avec sa mère humaine, d'où l'action primordiale de l'Esprit en Marie dans la conception humaine du Fils de Dieu. Et là on peut renvoyer à Matthieu 1, 20, l'ange qui s'adresse à Joseph, ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint, ou Luc 1, 35, l'ange à Marie, l'Esprit te couvrira de son ombre. Troisièmement, il est aisé de le reconnaître jusqu'à présent. Les conciles de Nicée et de Constantinople 1, on dit 1 parce qu'il y en avait plusieurs d'autres après, 2 et 3, professent en même temps l'identité divine du Christ et ce qu'on appellera alors la Trinité ou la Triunité de Dieu. On dira de façon plus formelle, ce sont des conciles à la fois christologiques et trinitaires. Et j'ai bien dû les exposer comme cela, en étant fidèle au titre de ma leçon. C'est du Christ que l'on parle, et c'est à propos du Christ qu'Arius déclaraient qu'il était impossible de le reconnaître comme Dieu. Alors, les textes, et nous n'avons pas le temps de le faire, et ce sera la suite aussi des leçons, les textes certainement décrivent aussi l'œuvre humaine du Christ, de sa naissance jusqu'à son avènement glorieux. Et en insistance, je dirais presque sur l'historicité des faits. C'est impressionnant, c'est étonnant que, avec Marie, c'est Ponce Pilate qui était inscrit dans une confession de foi. Donc, les conciles de Nicée et Constantinople ne mésestiment pas l'histoire humaine de notre Seigneur et son œuvre, loin de là. Cependant, au questionnement d'Arius relatif à la divinité du Christ, feront suite alors, tout normalement, des interrogations similaires qui concernent son humanité autant que sa divinité. Notamment la question fondamentale, mais comment peuvent-elles être unies l'une avec l'autre? Et les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine au 5e siècle auront à prendre position à ce sujet et à confesser, nouvelle confession sur ce qu'on vient de voir, à confesser un seul et même Christ, vraiment Dieu et vraiment homme. Passons au 5e siècle et à une autre communauté chrétienne, avec sa tradition théologique propre, représentée par Nestorius. C'est l'école d'Antioche. Il s'agit ici de considérer soigneusement la nature divine et la nature humaine du Christ de part et d'autre. Ne mélangeons pas. La nature divine n'est pas la nature humaine. La nature humaine n'est pas la nature divine. Le Verbe de Dieu, je paraphrase maintenant Nestorius et les Antiochiens, le Verbe de Dieu est engendré par le Père, l'homme Jésus est engendré par Marie. Soit dit en passant, Nestorius entendait écarter l'appellation qui s'était répandue parmi les fidèles de Marie, Mère de Dieu. Théotokos. Alors, quel peut être dans cette perspective le principe de l'union entre le Verbe de Dieu ainsi reconnu et l'homme Jésus ainsi reconnu? Une sorte de grâce divine accordée à l'homme Jésus en vertu de sa conformation, et en particulier sa conformation morale, au Verbe de Dieu. Alors, Cyril d'Alexandrie affronte résolument Nestorius. Le Verbe de Dieu en personne, dit-il. Ah, encore un alexandrin. Le Verbe de Dieu en personne, dit-il, est le principe d'union à sa propre chair. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. C'est lui qui unit sa divinité, son humanité, sa divinité. Sa naissance charnelle, c'est vraiment la sienne. Donc l'homme engendré de Marie est vraiment l'engendré de Dieu. D'où la dénomination Marie, Mère de Dieu. Mère du Fils unique du Père. En son humanité, l'homme engendré de Marie, c'est vraiment l'engendré de Dieu. Cyril met en œuvre le concile d'Éphèse en 431, dont je lis un bref extrait. Ce n'est pas que d'abord un homme ordinaire soit né de la Sainte Vierge, et que sur lui ensuite le Verbe soit descendu. Mais nous disons que sorti du sein maternel uni à la chair, il a accepté une naissance charnelle. Il revendique cette naissance charnelle comme la sienne propre. Ainsi, les pères n'hésitèrent pas à appeler la Sainte Vierge Mère de Dieu. Quatrièmement, tout de même, la considération de la nature divine et de la nature humaine du Christ, dans leur autonomie respective réclamée par Antioche n'était pas à dédaigner. Et surtout un certain Eutychès, qui se présentait comme disciple de Cyrille, provoqua un réaménagement de la confession christologique. Admettons, disait-il, c'est Eutychès, admettons que la nature divine et la nature humaine soient distinctes entre elles. Avant qu'elles soient unies dans le Christ, il y a un avant et un après. Avant qu'elles soient unies dans le Christ, admettons la distinction. Mais après l'union, il n'y a plus qu'une seule nature, et je cite, il était péché cette... Une seule nature du Verbe incarné. Après l'union, il n'y a plus qu'une seule nature du Verbe incarné. Question. La nature humaine, avec ses caractéristiques propres, paraît ainsi absorbée, résorbée par le Verbe de nature divine. Et je me dis aussi que la nature divine elle-même semble absorbée, résorbée, parce qu'après tout, on peut se demander si la chair est comme absorbée par la divinité, est-ce que la divinité ne se laisse pas elle-même absorber dans la chair? Et ça veut dire que nous aurions Dieu, l'homme, c'est les deux natures distinctes, et une nature christique. Ni Dieu, ni homme. Dieu inférieur, homme supérieur. Là, ce n'est pas tellement Eutychès, c'est Sévère d'Antioche, au VIe siècle, qui parle d'une nature composée après l'union. C'est un siècle avant Maxime le Confesseur, mais on n'ira pas jusque-là. C'est déjà bien si on arrive à casser les doigts. Donc, le Verbe de nature divine lui-même serait soustrait à ce que nous sommes. Et nous-mêmes serions soustraits à ce qu'il est. Absorption mutuelle. Quelle contradiction avec la belle déclaration de Nicée de Constantinople sur l'incarnation, je cite, « pour nous les hommes et pour notre salut ». 20 ans après celui d'Éphèse, le concile de Chalcédoine déploie une confession du Christ, dont l'influence traversant les débats demeurera puissante jusqu'à nos jours. Et vous l'entendrez, plusieurs énonciations des conciles antérieurs y sont reprises. Et aussi le vocabulaire, personne, nature. On peut y trouver également, il y fut influent, on peut y trouver également le condensé des homélies du pape Saint-Léon pour les temps de Noël et de Pâques. Et je lis ce texte de Chalcédoine. À la suite des saints pères, nous enseignons donc tous unanimement à confesser un seul et même. Ça, c'est contre Nestorius. Un verbe. Je vais simplement évoquer, signaler les reprises, les attentions de ce texte. Un seul et même Fils. Là, le nom de Dieu est nommé en premier ici. C'est Éphèse. Un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité. Toutes les caractéristiques divines, toutes les caractéristiques humaines, le même. Il les a en perfection. Il ne s'agit pas seulement de caractéristiques que l'on peut décrire de façon abstraite, non. Le même, vraiment Dieu, Lousia. Le même vraiment homme, Lousia. Il est composé d'une âme raisonnable et d'un corps. Il y a l'unique Dieu, il y a un individu humain, le même, Jésus. Voilà l'homosios. Consubstantiel au Père, selon la divinité, consubstantiel à nous, selon l'humanité. En tout semblable à nous, sauf le péché, citation de Hébreux 4,15. Distinction est éternité, temporalité, toujours pour le même. Avant les siècles, engendré du Père, selon la divinité. Et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, Nicée, de Marie, la Vierge, Mère de Dieu, Éphèse, selon l'humanité. Vous voyez ? Homosios au Père, engendré du Père. Homosios à nous, engendré d'une Mère, Marie. Un seul et même Christ Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures. Alors voilà, quatre adverbes négatifs. On ne nous dit pas comment dire convenablement le Christ, mais on nous dit en tout cas comment ne pas le dire, comment ne pas le considérer. Ces deux natures dans leur union. Sans confusion ni changement, c'est un extrême. Confusion, c'est évidemment eutychèse. Sans division ni séparation, l'autre extrême, c'est plutôt Nestorius. Elles sont distinctes, les natures, mais avant, comme le disait Eutychète, mais encore après. Le Christ qui unit la nature divine à la nature humaine, il est Dieu et homme, et pas un troisième ni l'un ni l'autre. La distinction des natures n'est nullement supprimée par leur union. Mais plutôt, les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. Le « n'est pas un ajout, c'est le double vocabulaire qui est repris. L'hypostase qui était utilisée par les Cappadociens et la personne, le prosopode, qui a été davantage utilisé par Nestorius. Eh bien, c'est le même. On répète, ni partagé, ni divisé, en deux personnes, français ou pas. Non, non. Un seul et même. Fils unique, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-Christ. Comme autrefois les prophètes nous l'ont enseigné de lui, comme lui-même Jésus-Christ nous l'a enseigné, comme le symbole des pères nous l'a fait connaître. En conclusion, avant d'examiner les conciles des 4e et 5e siècles, nous avons écouté les extraits de l'Évangile selon saint Jean. Et je termine notre réflexion sur l'identité filiale de Jésus de la même façon. La parole de Jésus ressuscité à Marie de Magdala signifie clairement notre communion fraternelle avec lui, dans notre relation filiale au Père qui est Dieu. Je lis, Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabbouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. Et elle-même, avec sa voix et son souffle, dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Cette communion fraternelle avec lui dans notre relation filiale au Père qui est Dieu, le Christ Jésus en est l'auteur. Il y a œuvré en venant parmi les siens, à travers ses enseignements et ses gestes de miséricorde, par sa mort sur la croix, victorieuse du péché et de la mort. De telle sorte que nous-mêmes, nous aussi, de nous-mêmes, puissions y œuvrer, aujourd'hui et toujours, par lui, avec lui et en lui, le vivant. Merci.